France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Renaud Capuçon. Vers 19h45, le son du jour, Yesterday I Was in London, d'Uche Yara. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier. Nous vous proposons ce soir une nouvelle écoute de l'épisode du 1er mars dernier, dans lequel Marie nous faisait visiter la rétrospective consacrée au photographe américain Widji. Le tout est réalisé par Vincent Abouchard et Alexandre Fougeron, avec Élise Leu et Jean-Guilain Meige à la prise de son. Bonsoir Renaud Capuçon.
Bonsoir.
Le 16 février est sorti votre disque Les choses de la vie, hommage au compositeur de musique de film. Le festival de Pâques Aix-en-Provence, dont vous êtes le directeur artistique, se tient jusqu'au 7 avril. Vous avez comme toujours beaucoup de concerts à venir. Je donnerai quelques-unes de vos prochaines dates à la fin de cet entretien. Mais comme chaque soir avec tous nos invités, on va en profiter pour revenir sur les origines de votre vocation, sur votre formation, sur des rencontres importantes. Et puis, bien sûr, écouter quelques extraits d'une très riche discographie. Rappelez que vous avez grandi en Savoie, à Chambéry, dans une famille de mélomanes. Ce qui est heureux, car quand l'été vient, vous allez en famille au Festival des Arcs, tout proche. Petite heure de route quand même, dans les montagnes, pour y entendre les musiciens dont vous écoutez les disques tout au long de l'année, que vous voyez aussi au Grand Échiquier de Jacques Ancel, qui réunit encore là toute la famille. Alors Aude, votre sœur aînée, se met au piano, le Benjamin Gauthier, ce sera le violoncelle, pour vous bien sûr le violon, votre frère et vous allez faire de votre passion votre métier. Aude, elle est devenue orthophoniste. Mais je parlais de ce festival de musique des arts, quel est votre véritable premier souvenir de concert ?
Alors, les concerts aux Arcs ont vraiment bercé mon enfance, que ça soit l'été comme l'hiver. Et je pense que mes tout premiers souvenirs de concerts sont évidemment là-bas et aussi à Chambéry. Mmh. Notamment l'opéra de Britten, Le Petit Ramoneur, qui avait été monté avec l'orchestre de chambre de Chambéry à l'époque, je pense. Ou peut-être une production de l'opéra de Lyon. C'était Claire Gibault, en tout cas, qui dirigeait, je me souviens. Donc ça, c'est un des premiers souvenirs. Je devais avoir 6-7 ans. Et les concerts aux Arcs, je me souviens très bien quand j'avais 6 ou 7 ans aussi. Je peux pas me souvenir des œuvres exactement, mais mon père enregistrait les concerts avec un magnétophone à cassette.
En douce ?
Il se cachait pas, mais c'était...
Bon.
Et on a perdu ces cassettes, ce qui est terrible, parce qu'il y avait des petites pépites.
Alors, en tout cas, vos premiers cours de musique commencent dès 4 ans. Méthode active, être professeur qui joue du piano, qui vous fait chanter les mélodies. Et puis, elle remarque assez vite que vous avez une très bonne oreille. Elle vous recommande l'apprentissage du violon. Et puis, vers 8 ans, c'est vous qui le dites, vous en êtes sûr, vous serez skieur l'hiver et violoniste l'été. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous continuez à skier ?
Oui, je skie, bien sûr, c'est une de mes soupapes.
Les assureurs doivent pas être très contents.
Alors, on va changer tout de suite de sujet.
D'accord.
Non, je skie depuis que j'ai 3 ans et demi, et je pense que je skie à peu près aussi naturellement que je marche. Le ski est une chose totalement naturelle pour moi. Bien sûr, il faut faire aujourd'hui très attention aux collisions, c'est ce qui est le plus dangereux. Et je skie maintenant uniquement dans d'excellentes conditions et en étant extrêmement prudent. Mais c'est pour moi, bien sûr, un retour aux sources, mais aussi un moyen. C'est un des seuls moments. Il y a deux situations où mon cerveau s'arrête vraiment de fonctionner, de tourner à plein, je dirais, malgré sa taille. Enfin bon, on connaît pas la taille de son cerveau, mais c'est quand je skie et quand je suis sur un bateau. Et c'est très étrange. Quand je monte sur un bateau, je peux vraiment, commence alors une sorte de rêverie merveilleuse où je peux comme ça avoir des idées mais qui sont pas forcément des idées musicales, où j'arrive à m'évader ou à lire des heures. Et au ski, j'ai l'impression que c'est là où je suis en contact le plus naturellement avec la nature. Alors ça peut aussi m'arriver dans des marches ou des choses comme ça, mais je fais ça plus rarement en forêt. Mais j'ai constaté que dans ces deux cas, finalement, je me repose vraiment et j'ai l'impression que le cerveau s'oxygène. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, j'aime le ski, oui. Ouais, j'en fais toujours.
Alors, je vais dérouler très rapidement les premières années, pour dire de 4 à 14 ans, Roland Capuçon, vous suivez un apprentissage de la musique et du violon au conservatoire de Chambéry. Il y a quand même aussi régulièrement les cours avec Veda Reynolds à Lyon, première rencontre marquante. À 14 ans, vous quittez le foyer familial pour rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, logé dans une famille d'accueil, avec évidemment des retours réguliers à Chambéry. Mais là, ce sont les cours avec le violoniste Gérard Poulet, qui vous apprend technicité, rigueur, lenteur plutôt que fougue. Premier prix de musique de chambre, premier prix de violon au conservatoire. Et puis à 16 ans, vous rentrez dans l'orchestre des jeunes de la communauté européenne. Et une nouvelle rencontre fondamentale, celle avec le chef Carlo Maria Giulini. Vous dites que ça a été un grand choc dans votre vie, presque comparable au fait de tomber amoureux. Qu'est-ce qu'il vous révèle de la musique ?
Il y a avant et après cette rencontre avec Giulini, en fait cette rencontre avec la musique. Finalement, jusqu'à ce moment-là, là, je suis un passionné de musique, un violoniste qui travaille beaucoup. Je suis au conservatoire, je travaille énormément. J'ai beaucoup d'ambition personnelle, musicale. C'est-à-dire que j'ai envie d'être violoniste. Voilà, je suis une sorte de ligne comme ça. Et puis arrive ce moment où je joue la 9e de Beethoven. Je suis tout au fond des seconds violons de cet orchestre de jeunes qu'avait créé Abbado à l'époque. Mmh. Donc Carlo Maria Giulini, qui a 75 ans à l'époque, une figure, je me souviens très bien, la première fois qu'il arrive, il avait col roulé noir, cardigan blanc, une autre colonne absolument insensée que j'ai passé des années à rechercher d'ailleurs, et mon parfum est très proche de celui que avait Giulini. Donc c'est quand même un vrai choc. Et puis commencent les répétitions, et là je suis hypnotisé par ce chef d'orchestre, et je comprends à ce moment-là que ma vie va devenir ça. C'est-à-dire que je comprends ce jour-là que c'est ça que je veux devenir, c'est ce genre de musicien-là que j'ai envie d'être. Et la notion de violon, c'est pas qu'elle perd de sa saveur ou de sa valeur, mais au fond je veux plus être violoniste, je veux être musicien en jouant du violon. Et donc c'est fondamental pour moi cette rencontre avec Giulini et cette 9e de Beethoven. Et ce moment-là s'est passé au Concertgebouw d'Amsterdam, dans un moment de la symphonie où j'ai eu l'impression que littéralement je volais. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai volé ce soir. Maintenant, je vais passer ma vie à rechercher ces moments. Ces moments de grâce en fait.
Alors vous allez notamment les rechercher ensuite à Berlin. Nouveau choc, hein, parce que alors, si vous excelliez au conservatoire à Paris, vous ne retrouvez que des gens qui excellaient chacun dans leur pays, beaucoup de jeunes gens très, très brillants. Alors, ça permet sans doute de relativiser les choses, mais aussi de trouver des nouveaux camarades. Et puis, il y a aussi ce travail avec Thomas Brandis, premier violon de la Philharmonie de Berlin, qui, quelque sorte, déconstruit ce que vous avez enseigné Gérard Poulet, parce que la technique, vous l'aviez, et lui, il vous demande de vous lâcher. Mais comment est-ce qu'on fait pour cela ?
Alors, c'est pas vraiment de déconstruire, c'est, disons qu'il se coule la machine, quoi. Voilà. Ouais. En gros, j'arrive, je sors du conservatoire de Paris d'un troisième cycle où tout le monde me disait que j'étais promis à un grand avenir, j'étais brillant, blablabla. Et certainement que j'arrive à Berlin à la fois sûr de moi et tétanisé à l'idée de me retrouver dans une ville où je ne parle pas la langue, où je ne connais absolument personne. Si ce n'est que j'habite chez les meilleurs amis de Claudio Abbado et que forcément ça aide. Donc, je me retrouve dans une situation où je vais prendre mes cours avec Thomas Brandis et quasiment tous les soirs, où c'est possible, j'écoute le Philharmonique de Berlin, dirigé par Abbado.
Pas mal.
Chance extraordinaire que je réalise à l'époque, peut-être moins qu'aujourd'hui.
Bah vous avez 19 ans à ce moment-là, 19-20 ans.
Ouais. Mais je le réalise quand même, je réalise que j'ai beaucoup de chance. Et là, c'est le début c'est la continuité de cette rencontre avec Giulini. C'est finalement la mise en abîme d'un violoniste qui se retrouve confronté à des gens beaucoup plus forts que lui. Ce qui n'était pas forcément le cas à Paris. Il y avait des gens très forts autour de moi à Paris. Mais là, je me trouve avec des violonistes très forts, mais aussi des musiciens incroyables, beaucoup plus formés que moi, avec beaucoup plus de cordes à leur arc. Et j'apprends tout ce que je peux apprendre. C'est là où je rencontre Daniel Barenboim, c'est là où je rencontre Claudio Abbado, et c'est là où ma vie musicale prend forme, parce que Abbado me demande de devenir violoncello de son orchestre des jeunes, Gustav Mahler, et que au sein de cet orchestre, je commence à jouer, donc en tant que violoncello, mais dans toutes les plus grandes salles européennes, où finalement, après quelques années, 5, 6 ou 7 ans après, je jouerai moi-même en soliste. Donc c'est assez merveilleux d'avoir pu avoir cette formation musicale avec cet orchestre. Et la sonorité de cet orchestre Gustav Mahler est certainement une sonorité qui m'inspire encore aujourd'hui. C'est une des plus belles sonorités de cordes qui existent au monde.
Puis vous parlez de rencontres importantes, Renaud Capuçon. Il y a aussi celle avec Isaac Stern. Alors avant de parler de lui, on va l'écouter au micro de celui qui était aussi devenu votre ami, Jacques Chancel. C'était en janvier 70 dans Radioscopie.
Préparation. On pense, on a joué le concert plusieurs fois, presque, je sais pas, 200 fois. Chaque fois, il y a quelque chose de différent. Chaque fois, on doit penser, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire différent? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen? Trouver vraiment le centre de la vérité de cette phrase. Alors, on essaie. Et on essaie à la maison un tout petit peu, et puis à la répétition. Là, on joue avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. On joue 12 fois, parce qu'on a 37 000 abonnés. Évidemment, c'est impossible de jouer la même chose 12 fois, mais il y avait des années quand on devrait le faire. Maintenant, on le joue 6 fois ou 7 fois, et puis on change. Là, c'était le Beethoven et le Bartok. On a commencé avec Beethoven, et malheureusement, après un concert à l'acte Tiberius, il y avait un accident de l'autocar, pas sérieux, mais il y avait 20 musiciens dans l'autobus qui étaient un peu blessés. On ne pouvait pas continuer avec les Bartok, c'était nécessaire rejouer le Beethoven. Alors j'ai joué le Beethoven à peu près 10 fois. C'est curieux parce que c'était plus difficile, les 7e, 8e, 9e fois, à la fois, jouer à la fois. Tout d'un coup, je commençais à penser, mais quel doigt je prends? Qu'est-ce que le prochain doigt? La note, je sais, mais comment je vais arriver? Une chose que j'arrive presque jamais. Parce qu'on joue, on commence à jouer automatiquement. C'est le danger. On doit toujours travailler contre ce danger. Faire la musique, c'est parler. On ne peut pas jouer automatiquement. On doit faire la musique entre les notes. On doit penser, on doit chanter, on doit sentir, on doit faire tout. Tout le temps.
Vous avez le trac parfois?
Toujours, c'est seulement les petits-enfants, les idiots qui n'ont pas le trac.
Ça aide?
Sans trac, on joue pas bien. Mais ça dépend combien de trac. Et puis comment on peut le contrôler? Vous savez, jouer en violon, jouer au concert, c'est mourir 1000 fois. Mais continuer à vivre.
Isaac Stern, alors beaucoup de choses un peu intéressantes dans ses propos. Oui.
J'ai eu la chance de travailler avec lui en 95, en 95, pardon, c'était en Suisse, à Verbier, et cette voix, elle est extraordinaire. Et puis elle correspond aussi à ce violon je joue le violon que Isaac Stern a joué pendant 50 ans, donc c'est toujours très émouvant de l'entendre parler. C'est tellement vrai ce qu'il dit sur le track. Moi, je le dis différemment, mais je dis que le jour où il n'y a plus de track, c'est qu'il n'y a pas d'envie, donc il faut s'arrêter tout de suite. Et j'adore cette façon de dire qu'il n'y a que les idiots et les gamins qui n'ont pas le track. Et c'est tellement vrai. Et je connais un certain nombre d'idiots qui n'ont pas le track. Voilà. Et
c'est la phrase d'une jeune comédienne qui disait. Est-ce que c'est Sacha Guitry ou Eve Vienne Printemps? C'est formidable. Moi, j'ai pas le trac et
ça viendra avec le talent.
Ça viendra avec le talent.
Elle
est pas mal. Mais ce qu'il dit là aussi, c'est quand on doit jouer, comme ça vous arrive régulièrement, Renaud Capuçon, de nombreuses fois une même œuvre, comment faire pour toujours être au présent de son interprétation?
Ben, c'est le cœur de notre vie de musicien. Je crois que c'est ça. Le jour où 1% ou 2% de routine commence à venir, faut s'arrêter tout de suite et réfléchir, à se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, parce que ça veut dire que il y a plus de moteur. C'est drôle, ils parlent de l'Orchestre d'Israël, ils parlent de 6 et 10 concerts. J'y vais dans 2 mois et je vais jouer 6 fois le concerto. Enfin, c'est pas encore défini lequel, donc c'est pour ça que je le dis pas. Mais bref, en tout cas, 6 fois de suite. Et c'est étonnant d'avoir entendu le même orchestre avec le même nombre de. C'est étonnant la vie. En tout cas, ça m'a beaucoup touché cette archive.
Il faut passer à la pratique. On va vous écouter dans des registres assez différents. J'ai choisi à dessein pour cela, pour que vous nous expliquiez comment vous abordez, Renaud Capuçon, les répertoires. Le premier extrait qu'on va écouter est l'Allegretto de la sonate pour violon numéro 1 de Robert Schumann. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire sur Schumann, mais dans la version que vous avez gravée, en l'occurrence avec Martha Argerich, peut-être quand même commencer par quelques mots sur cette immense personnalité du monde musical, immense personnalité tout court, jouer avec elle. Alors, qu'est-ce que ça demande et qu'est-ce que ça procure ?
Alors, je l'ai rencontré très tôt aussi dans ma vie musicale, en 2000, je pense, donc j'avais 24 ans. D'abord, ça procure une sorte de vertige, parce qu'on est tétanisé à l'idée de jouer avec elle. Et puis finalement, ça se transforme immédiatement en une sorte d'immense excitation et d'adrénaline. Et ce qui est fascinant avec Martha Argerich, c'est que jouer avec elle, j'ai souvent décrit ça et je pense que c'est chaque fois que je rejoue avec elle, ça me confirme que c'est exactement ça. C'est comme en fait avoir une conversation qui est comme si avec des ondes au-dessus. C'est-à-dire que il y a la musique bien sûr qui est là et puis on s'attrape, on se connecte quelque part. On ne se lâche pas et on a cette chose avec elle depuis le premier jour où on a joué ensemble et ça fait plus de 25 ans maintenant. Il y a une confiance absolue et une envie de prendre des risques totales. Et ça, c'est très rare. On n'a pas ça avec beaucoup de monde dans une vie. Et j'ai cet immense honneur et immense chance que je réalise chaque fois que je joue avec elle. Et depuis 2 ans, je l'ai accompagnée en tant que chef d'orchestre, ce qui a été une nouvelle expérience. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai accompagnée dans le premier concerto de Beethoven, 2 ou 3 jours avant, moi je ne dormais plus parce que elle m'a rassuré en me disant mais comment tu peux avoir le trac, on se connaît tellement musicalement, il n'y a pas de problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on se devinait musicalement. Et ça c'est très rare. Et elle donne, je pense que ce qu'elle m'a donné c'est la confiance. C'était une immense star quand j'ai joué avec elle. Et moi j'étais un gamin. Donc la confiance et puis le fait de laisser l'autre s'exprimer, de le suivre et d'engager un dialogue, ça c'est prodigieux et ça m'a donné une force incroyable.
On va écouter un extrait de ce dialogue.
Thank you.
Vous dites volontiers, Renaud Capuçon, que vous avez une prédilection pour le répertoire romantique allemand. Alors, on peut imaginer que c'est lié à votre enfance, peut-être dans les Alpes, quand vous jouez Schumann, quand vous jouez Brahms. Vous êtes à la maison ?
Si je dis ça, on va penser que je suis très prétentieux. Mais oui, dans le sens où je me sens rassuré en jouant ces compositeurs. C'est des compositeurs avec lesquels j'ai découvert la musique. C'est par Brahms, Schubert, Schumann, Beethoven, Mozart que j'ai découvert la musique de chambre. Parce que j'ai aussi découvert la musique par la musique de chambre. C'est pas si fréquent qu'un gamin de 7 ans, 8 ans écoute des heures, des trios, des quatuors à cordes. Donc ça a forcément façonné mon oreille. Et puis, c'est vrai que j'aime ces compositeurs. Et de jouer cette sonate de Schumann avec Martha Argerich, c'est toujours une aventure incroyable. Elle l'a jouée je ne sais pas combien de fois. Elle l'a enregistrée avec Perlman, avec Kremer. Elle a une façon de la jouer unique. Et en même temps, elle ne la joue jamais de la même façon. Et je vous disais hors micro tout à l'heure que c'est... Là, en entendant ce disque qui est vraiment un live pur. C'était pas du tout censé être un disque. C'était un... Il y avait des micros, le concert a été enregistré, et en l'écoutant, on s'est dit, mais en fait, on pourrait en faire un disque. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, il y a de, très, très, très peu de patchs, parce que la répétition générale n'a même pas été complètement enregistrée. Et donc, j'aime cette notion du lâcher-prise et du moment. Et c'est ce que j'aime dans les enregistrements live. Quand c'est possible de le faire avec des artistes comme elle, ça devient à ce moment-là une sorte de lâcher-prise. Assez merveilleux.
Alors, comme vous l'aviez évoqué, alors, comme votre envie musicale est riche, elle couvait peut-être depuis longtemps et peut-être effectivement depuis la rencontre avec Giulini, vous êtes devenu chef d'orchestre. Depuis septembre 21, vous avez pris la direction de l'orchestre de chambre de Lausanne, qu'on entendra tout à l'heure, premier mandat de 4 ans. On va parler de cette nouvelle casquette, Renaud Capuçon. Mais avant ça, on va écouter le chef, Maxime Pascal, qui était invité dans cette émission il y a quelques mois. Ce jour-là, c'était mon camarade Romain de Bec-de-Lièvre qui l'interviewait.
L'orchestre, les musiciens de l'orchestre, forment le chef d'orchestre. Ils le sculptent. Vous disiez, François-Xavier Roth m'a formé. En fait, je ne sais pas s'il m'a formé. Ce qui forme le chef d'orchestre, moi j'ai appris énormément de lui, mais ce qui forme le chef d'orchestre, ce sont les musiciens de l'orchestre. C'est eux qui... Et d'ailleurs, je pense que parfois, les orchestres sous-estiment un peu
leur pouvoir.
Bah, le pouvoir qu'ils ont sur un jeune chef. En fait, ils peuvent le façonner comme ils le désireraient. C'est très important, ça, parce que, en fait, ce sont les orchestres qui construisent les chefs d'orchestre. Avec eux, ensemble, c'est un travail d'équipe, c'est quelque chose de... Mais les orchestres, dans la manière dont ils réagissent, enfin le chef d'orchestre va se sculpter ses gestes en fonction de... Il va écouter de ce que fait l'orchestre, en réagissant, en trouvant les solutions pour que ça marche mieux, pour que ça soit plus juste, plus ensemble, mieux balancé. Tout ça, en fait, il le fait en réagissant à ce que propose l'orchestre au départ. Donc c'est moi je crois que ce sont les musiciens de l'orchestre qui sculptent les chefs d'orchestre.
Alors en tant que musicien qui joue parfois avec des orchestres et qui a beaucoup joué et puis maintenant depuis 2 ans et demi chef d'orchestre, Renaud Capuçon, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Maxime Pascal ?
Mais c'est très juste et moi j'ai cette chance incroyable d'avoir un orchestre exceptionnel avec lequel je travaille. Et j'apprends énormément d'eux. Et donc, je suis absolument d'accord sur le fait qu'un orchestre nous inspire. Alors, nous, on doit inspirer l'orchestre. C'est un échange. J'irai un peu plus loin. Je dirais qu'on est dans un échange permanent. Un chef d'orchestre qui n'inspire pas des musiciens d'orchestre, la porte est fermée. C'est fini. Et le chef d'orchestre peut être formidable. Mais si les musiciens ne sont pas inspirés par lui et décident consciemment ou inconsciemment de ne pas donner, la rencontre est ratée. Et ça se passe parfois, ça se passe même souvent.
Parfois on l'entend, oui.
Ça se passe avec des grands chefs et des grands orchestres. Parce qu'il n'y a pas cette alchimie, ou parfois il y a eu et puis il y a une cassure. C'est vraiment comparable à une histoire entre un homme et une femme, enfin, ou entre deux êtres en tout cas. Dans une histoire d'amour, vous avez la rencontre, vous avez la découverte, vous avez l'envie de construire, d'avancer, Vous avez des disputes, vous avez des problématiques, vous avez des drames parfois. La vie d'un orchestre, c'est exactement pareil. Vous avez des frustrations, vous avez des non-dits.
Et vous avez du bonheur.
Ah mais bien sûr, mais au-delà de ça, vous avez un bonheur fou. Mais il faut pas penser que le fait d'être face à un orchestre, c'est uniquement le bonheur du partage et de tout ce qui est positif. Il y a plein de choses, non pas négatives, mais il y a plein de choses qui sont inhérentes à cette vie de musicien et à cette façon de transmettre. Parce que il y a aussi la façon de comment dire les choses. Là aussi, vous pouvez complètement, en une phrase ou une intonation de voix qui va déplaire, vous pouvez braquer une section, vous pouvez braquer un soliste dans les vents, toute une section, et vous le sentez immédiatement, ou même un regard parfois peut être... Donc il y a beaucoup de choses à apprendre aussi dans la dialectique de du corps, de comment on est. C'est très très complexe. En fait, c'est une école de vie. Moi, ce que j'adore avec cette nouvelle vie, parce que j'ai l'habitude de dire maintenant que je suis un violoniste qui commence à vieillir, mais un très jeune chef, malgré le fait que je quand même commence aussi à vieillir. Mais je suis un jeune chef. J'ai commencé à diriger il y a 5 ans. Et donc, c'est pour moi, finalement, une façon de rajeunir et de ne jamais cesser d'apprendre. Même si je continue d'apprendre au violon chaque jour, évidemment.
Mais l'envie, est-ce qu'elle, je disais, est-ce qu'elle vient peut-être déjà avec Giulini ?
Ah, mais c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Elle vient. Il y a deux moments clés pour ce qui est de la direction. Il y a la rencontre avec Giulini où je découvre la sonorité de l'orchestre. Je découvre à ce niveau, dans une salle extraordinaire, je découvre l'opulence d'un son comme cette sonorité de la 9e de Beethoven, dirigée par un grand chef. Et puis il y a l'autre rencontre, celle avec Abbado, quand je suis moi-même violoncelle de l'orchestre Gustav Mahler, et ce jour où il me demande de diriger un extrait de l'ouverture de Tannhäuser, en fait il me demande pas de diriger, il veut écouter, l'assistant est pas là, il me donne la baguette, il dit vas-y, donc je crois que c'est une blague, mais il insiste, donc je dirige pendant, je sais pas, 3-4 minutes l'ouverture de Tannhäuser. Bien sûr que l'orchestre joue tout seul, je suis pas complètement dupe. Mais la sensation que j'ai eue ce jour-là, je pense que j'étais comme peut-être l'impression d'être à la fois dans un moteur d'une Aston Martin, dans un V12 et sur une soucoupe volante en apnée dans l'eau,
livresse en haut d'une montagne. Sommets.
Oui, il y avait quelque chose de totalement fascinant et je me suis rassis totalement groggy. L'épisode a été évidemment oublié par tout le monde et fort heureusement, sauf par moi. Et depuis cet instant, c'était en 1999, donc ça fait quand même quelques années, je sais qu'un jour je dirigerai. Ah. Et voilà, ce qui est amusant, c'est que quand on forcément, des gens doivent penser que je dirige parce que je sais pas, peut-être que je m'embête au violon et que ça m'a pris un matin et que j'ai dit allez tiens, je vais prendre un orchestre, je vais diriger. C'est un très long cheminement et depuis 99, il n'y a pas un seul concert que j'ai écouté, il n'y a pas une seule fois où j'ai rencontré un chef d'orchestre où je n'avais inconsciemment ou consciemment les deux la perspective du jour où enfin je passerai je franchirai le Rubicon même si je le dois à mon épouse qui m'a vraiment poussé puisque en gros depuis quelques années chaque année elle me dit mais alors la direction c'est pour quand et chaque fois je dis non mais je respecte trop les musiciens, il faut que je prenne le temps etc. Et puis finalement à un moment elle m'a dit bon t'as la trouille quoi en fait. Et là j'ai été piqué au vif, vous pouvez bien imaginer, et j'ai décidé de m'y mettre.
Ouais, bon. Il s'était passé que 20 ans depuis ce moment.
C'est pas mal,
cette ouverture de Tannhäuser. Alors, on va écouter justement cet orchestre de chambre de Lausanne avec une pièce d'Arvo Pärt, Darf ich, pour varier, comme je le disais, les répertoires. Jouer les contemporains, c'est évidemment très important pour vous. Vous allez d'ailleurs bientôt créer, je vais l'annoncer tout à l'heure, une pièce de Thierry Esquèche. Avec Pärt, qu'est-ce qu'il faut convoquer pour l'interpréter?
Il faut convoquer le spirituel dans le plus noble sens du terme, en étant extrêmement à la fois ancré dans le sol, extrêmement terrien, et en même temps pouvoir faire accéder la musique de Pärt qui est totalement connectée, donc la faire décoller immédiatement. Mais il faut qu'il y ait une matière sonore extrêmement riche et qui puisse comme ça se mettre à briller. Et je dois dire que c'est le tout premier disque qu'on ait fait ensemble avec l'orchestre. Je n'étais pas encore nommé où je venais d'être nommé, mais je venais d'être nommé, mais j'avais pas encore commencé et c'était en plein Covid. Et donc, je pense que c'est quasiment les premières choses qu'on a enregistrées.
Ah ben, on écoute cet extrait. Alors, une des dimensions importantes de votre pratique, Renaud Capuçon, peut-être même centrale, c'est celle de la transmission. C'est sans doute un des héritages de Claudio Abbado. Ça passe par le fait notamment de faire se rencontrer les plus grands interprètes et les jeunes talents, ce qui est l'ADN du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dont vous êtes le cofondateur. Ça fait aussi maintenant 10 ans que vous enseignez à la Haute École de Musique de Lausanne. Il y a toujours cette idée quand même dans la transmission que si vous apportez beaucoup à vos élèves ont aussi beaucoup à vous apporter. Vous parliez de l'orchestre tout à l'heure. Là aussi, il y a un échange qui est important et que les jeunes interprètes rencontrent leur maître, je mets des guillemets, mais ils sont importants. C'est une chose qui vous est chère, précieuse.
Ah oui, mais si j'avais su d'ailleurs à quel point ça m'apportait, j'aurais enseigné beaucoup plus tôt. C'est le grand regret de ma vie. En fait, j'ai modestement pensé que je ne pouvais pas enseigner trop tôt parce que j'étais pas assez armé pour le faire. Donc j'ai attendu 40 ans. J'ai commencé en 2014, vous voyez que j'avais 38 ans. J'ai commencé en 2014, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Et en fait, dès que j'ai commencé à enseigner vraiment, je me suis rendu compte que tout ce que je cherchais à résoudre pour mes élèves me permettait moi-même, en leur communiquant ces choses-là, de les réapprendre. Donc j'ai réappris tout ce que mes profs, Veda Reynolds, Gérard Poulet, Thomas Brandis, Isaac Stern, m'avaient dit 30 ans avant. Et franchement, mais je me suis dit, mais quel idiot, pourquoi t'as pas enseigné plus tôt? Donc je dis maintenant à tous les jeunes que je conseille, avec qui je joue, mais enseignez dès que vous pouvez. Parce qu'en fait, c'est une façon d'apprendre. Et puis, c'est tellement merveilleux de pouvoir transmettre des choses. Ça donne un sens à votre vie de musicien. Parce que, franchement, si le but d'être un musicien, c'est d'être applaudi sur scène, c'est très, très, très rapidement... Enfin, on a compris, quoi. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire la musique, de la partager, de voir des jeunes qu'on a enseignés voler de leurs propres ailes. Mon but, c'est pas d'avoir un catalogue de premier prix de concours. Ça m'intéresse absolument pas. En tout cas, c'est pas dans l'ADN de ce que j'ai envie de transmettre.
Puis la transmission, c'est aussi l'ouverture à toutes les musiques chez vous, notamment avec passion pour les musiques de films, dont vous achetiez adolescent les disques pour reprojeter le film dans votre chambre. Il y avait eu l'album Cinéma en 2018, et là, il y a un deuxième album qui vient de sortir, consacré à ce répertoire, par goût sincère aussi, par envie, j'imagine, de faire venir un plus vaste public vers une musique orchestrale. On va écouter un extrait de ce disque-là, une musique composée par Vladimir Kosma. Vous voyez, quand le répertoire et la palette est large, celle des aventures de Rabbi Jacob. Alors, cette partition-là, Renaud Capuçon, alors, que tout le monde a en tête, puis là, comme ça, tous les auditrices et auditeurs vont l'avoir en tête pendant plusieurs jours, qu'est-ce qu'elle exige de vous comme interprète ?
Alors, Vladimir Kosma, à qui j'ai demandé de transcrire cette pièce pour violon, parce qu'elle n'est pas écrite à la base pour violon et orchestre. Et dans le précédent album, j'avais joué le concerto de Berlin, et puis il m'avait fait une transcription aussi pour violon du Grand Blond à la chaussure noire. C'était un grand bonheur d'avoir fait ça. Alors, ce que ça demande, c'est une écriture très classique. Kosma, il écrit vraiment de façon très classique. C'est de façon très concertante. C'est très écrit pour le violon, très bien écrit. Il est lui-même violoniste, donc il sait écrire pour le violon. Il y a des octaves, des harmoniques, enfin plein de choses un peu techniques. Mais j'aime cette idée de jouer de la musique de film. Alors, qu'on se méprenne pas, c'est pas une façon de chercher à rameuter un public plus nombreux. L'idée, à la base, c'est par pure envie de jouer cette musique. Et il se trouve que je me suis rendu compte, en parlant à pas mal de mes amis, de mes anciens potes, qui viennent pas au concert classique, qui j'étais en classe à Chambéry, ou des gens comme ça que j'ai rencontrés, ils viennent, ils achètent ces disques-là, et ils viennent, j'étais à l'Olympia, et j'ai vu des gens que je vois pas d'habitude quand je joue à la Philharmonie ou ailleurs. Et donc je me dis, si ça peut faire venir un autre public, parce que ça fait moins peur que quand je joue le concerto de Schoenberg, ça, c'est un peu normal, tant mieux. Mais j'aime pas cette idée de vouloir forcément... Le mot démocratiser, il me sort un peu par les yeux, parce que ça veut rien dire, démocratiser.
Non, c'est donner le goût.
C'est donner important. Le goût. Et Chancel savait tellement bien faire ça. Il savait tellement faire aimer, il partageait des choses. Et il disait toujours, il faut faire connaître des nouvelles choses plutôt que de rester sur les choses que tout le monde connaît. Et c'est tellement... C'était beaucoup mieux dit, évidemment. Mais c'est tellement vrai.
On l'écoute, cet arrangement pour violon et orchestre des aventures de Rabbi Jacob. me reste juste le temps de rappeler que le 16 février est donc sorti ce disque Les choses de la vie consacré aux musiques de films, un répertoire extrêmement varié, que le festival de Pâques d'Aix-en-Provence dont vous êtes le directeur artistique Renaud Capuçon se tient jusqu'au 7 avril. Alors quelques dates à venir. Demain, 27 mars, mais aussi le 28, vous serez à la salle Métropole de Lausanne avec l'orchestre de chambre de Lausanne qui sera dirigé par Tugen Sokiev.
Absolument.
Pour le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev. Même programme le 31 mars au Grand Théâtre de Provence. Là, on revient au festival de Pâques. 7 avril, toujours au Grand Théâtre de Provence, vous invitez les amis autour de Schubert. Et puis, il y aura un récital en duo avec Igor Levit au piano le 8 avril à Heidelberg. Les 10 et 11 avril, je l'évoquais tout à l'heure, première mondiale du concerto pour violon de Thierry Esquèche à la Philharmonie de Munich, sous la direction de Daniel Harding, même programme au Musikverein de Vienne le 13, à la Elbphilharmonie de Hambourg le 17 et à la Philharmonie de Paris le 19. Et puis le prochain concert qui suivra celui-là à Paris, ce sera le 30 avril au Théâtre des Champs-Élysées avec François-Xavier Roth et son orchestre Les Siècles. Bon, c'est toujours... toujours beaucoup de nuits loin de la maison tout de même, Renaud Capuçon.
Oui, mais c'est aussi le bonheur toujours de revenir. Quand on part et qu'on revient, on apprécie de revenir. Ça sonne un peu simpliste, mais j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse et une femme compréhensive et qui bosse aussi beaucoup. Et puis la musique me nourrit et je crois que c'est... J'aurais jamais imaginé que ma vie puisse être aussi riche musicalement que quand j'étais un petit gamin de 5 ans qui rêvait de jouer du violon. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais ce bonheur sur scène. Jamais.
Merci d'avoir été notre invité, Renaud
Merci
Capuçon.
À vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Uche Yara est ce qu'on appelle une artiste à suivre. Avec seulement 5 morceaux sortis, cette multi-instrumentiste autrichienne d'origine nigériane a déjà de quoi accrocher l'oreille. Les programmateurs des rencontres des transmusicales de Rennes, dont on connaît le flair lorsqu'il s'agit de repérer des artistes émergents, ne se sont d'ailleurs pas privés de l'inviter à la dernière édition du festival. Déjà habituée à la scène, elle avait accompagné le groupe Bilder Butch à la guitare en première partie des Rolling Stones à Vienne. S'il y avait un lien à tirer entre les vétérans du rock'n'roll et la jeune novice, c'est celui de l'énergie débordante et de l'accroche rythmique. Pour le reste, Uche Yara, seulement 20 ans au compteur, est bien dans l'air du temps. Sa musique emprunte au rock psychédélique, au R&B, à la soul. En attendant, on l'espère, un premier album. Voici le morceau « Yesterday I Was in London » qui devrait vous donner un aperçu de son univers.
Thank you.
C'était Yesterday I Was in London d'Uche Yara. Elle sera en concert au Pop-Up à Paris le 6 mai prochain.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis ce soir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris qui présente une rétrospective du fameux photoreporter Ouidji, alors je crois que vous entendez sa voix derrière moi, qui a couvert pour la presse américaine toutes les scènes de crime et les faits divers de son époque comme personne d'autre avant lui.
Bonjour, je suis Clément Chéroux, je suis le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et par ailleurs commissaire de l'exposition Ouidji, autopsie du spectacle, qui est présentée à la Fondation.
Alors justement, on vient d'entrer dans cette exposition, merci de nous y accueillir. Avant qu'on fasse le tour avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce photographe en quelques mots ? Qui est-il ?
Ouidji, c'est un personnage assez truculent, je dirais, un personnage de légende qui a lui-même construit son propre mythe. Il est né en 1899 en Ukraine et sa famille émigre aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui va vivre dans les quartiers pauvres de New York, arrêter l'école très tôt, travailler, devenir photographe de rue, qui proposait des portraits aux enfants juchés sur un poney. Donc déjà, il y a une histoire originelle assez fascinante. Et puis après, il est devenu photojournaliste, un des grands photojournalistes du New York noir des années 30 et 40.
Alors, je crois, moi, n'avoir jamais vu une exposition Ouidji. Est-ce que c'est finalement assez rare qu'il soit exposé dans une fondation ou dans un musée ?
Alors, effectivement, ça faisait presque une quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu Ouidji en France. Et donc, on est vraiment heureux de présenter une rétrospective assez complexe, hein, parce que, je dirais, complexe et complète, puisqu'on montre toute l'œuvre depuis les années 30 jusqu'à sa disparition en 1968.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter trois ou quatre photographies qui, selon vous, sont emblématiques de son travail ?
Alors, une série d'images déjà assez extraordinaires, hein, qui montrent bien le travail de Ouidji dans les années 30. Hein. C'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec la police. Il est branché en permanence sur la radio de la police dans sa voiture et donc il est toujours le premier à être présent sur les lieux. Quand on le dit comme ça, ça paraît une évidence, on a souvent entendu cette histoire, mais en fait Ouidji est celui qui a créé cette légende, il est le premier à effectivement être branché.
À utiliser les fréquences depuis sa voiture.
Exactement. Et donc ça fait qu'il est effectivement toujours présent sur les lieux, parfois même avant la police, et qui réalise des images assez directes où on voit donc dans cette première période entre 35 et 45 des accidents de voiture, des immeubles en feu, des meurtres, des assassinats. On est juste après la prohibition, donc on est dans une époque où il y a encore beaucoup de règlements de compte à New York, de guerre des gangs, et Ouidji réalise ce type d'image.
Pourquoi il s'intéresse sur justement ces scènes de crime ? Qu'est-ce qui lui plaît là-dedans et à qui sont destinées ces photographies ?
Alors, ces images qui sont essentiellement destinées à la presse, hein, la presse tabloïde, ce qu'on appelle la presse tabloïde, qui est en pleine effervescence à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose dans les années 30 qui se développe, qui crée une véritable économie. Et pour le dire très simplement, c'est comme ça que Ouidji gagne sa vie. Hein. Il gagne sa vie en faisant des photos pendant la nuit et au petit matin, après avoir tapé ses légendes dans le coffre de sa voiture sur sa machine à écrire, il délivre ses photographies aux agences de presse et aux journaux, surtout, qui les publient. Je pense pas qu'il ait fait ça par goût, hein. On a souvent dit que Ouidji était un voyeur, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui comprend très très bien ce dont la presse a besoin et qui va produire des images qui sont parmi les meilleures de sa génération. Il n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais il est celui, je dirais, qui a poussé l'art de la photographie de faits divers à un summum d'expertise.
Oui, vous parlez d'art quand on se retrouve devant cette série-là qui s'appelle Flagrant délit, hein, c'est ça ? On voit bien à quel point le cadre, et j'allais dire presque la mise en scène, est première dans ces photos-là.
Alors en fait, Ouidji avait, parmi les multiples truc qu'il utilisait, la fréquence de la radio de la police. Il a eu aussi cette idée, finalement, de se poster tous les matins au moment où le fourgon de police qui avait circulé dans toute la ville pendant toute la nuit, le moment où il revenait au commissariat et on ouvrait les portes et on voyait donc les gens qui souhaitaient rester anonymes et se cacher derrière leur journal, derrière leur chapeau, et puis d'autres personnes qui étaient particulièrement heureuses de se mettre en scène eux-mêmes dans ces moments d'arrestation. On est là par exemple devant une photographie d'un jeune homme qui est habillé en femme, hein. C'est une époque où à New York, le fait de s'habiller en femme pour un homme était totalement prohibé et donc répréhensible. Et là, on a un personnage dont on sent qu'effectivement, il est arrêté, mais il est content de poser pour le photographe.
Un grand sourire sur son visage.
Voilà, une forme d'affirmation au sortir du fourgon de ce personnage-là. On est en 1939 et c'est un moment particulier dans l'histoire du travestissement à New York.
On vient de changer de salle.
Exactement, on est dans la deuxième partie de l'exposition qui s'appelle La Société des spectateurs, parce que Luigi a une particularité dans sa photographie, c'est qu'il inclut très souvent en premier plan soit d'autres photographes qui travaillent avec lui au même moment, soit des spectateurs, des gens qui sont en train de regarder la voiture accidentée, le feu ou le crime. Et là, on est devant une image qui s'appelle « Balcony Seats at a Murder », qui date de 1939. Donc on pourrait traduire ça par « place au balcon pour regarder un meurtre ». On voit un petit café italien dans un des quartiers de New York, et il y a un corps qui est étendu sur le pas de la porte qu'on voit ici. On a la police autour. Et puis surtout, dans l'immeuble où se trouve le meurtre, on voit qu'il y a des gens à la fenêtre qui sont en train de regarder ça. Et ce que nous dit Luigi à travers ce titre, « place au balcon pour regarder un meurtre », c'est finalement cette idée que la scène de crime est une scène de théâtre. Hein. Et c'est pour ça qu'il emploie ce terme de siège de balcon, parce que c'est le terme qu'on emploie au théâtre ou à l'opéra à cette époque-là. Et de cette manière, et c'est ça, je dirais, la grande intelligence de Luigi, il nous montre que, effectivement, le fait divers est transformé par la presse américaine en une forme de spectacle.
Puis aussi toutes ces questions sur le regard. Évidemment, le photographe est celui qui regarde et qui cadre. Mais là, ce que vous dites, c'est que on a aussi des regardeurs dans la photo qui regardent eux-mêmes le crime qui vient juste d'être commis. Il y a une espèce de mise en abîme, quoi.
Exactement. C'est vraiment une forme de mise en abîme. Et je pense que de sa part, c'est lié à la volonté de dire à celui qui va ensuite regarder l'image dans le journal dans laquelle il va la découvrir, lui dire « Regardez, vous êtes vous-même en position de spectateur comme ceux qui regardent à l'intérieur de l'image. » Donc il met le doigt sur ce voyeurisme, finalement, qui fait la presse à scandale, la presse tabloïde de ces années 30 et 40.
On pourrait s'arrêter sur plein d'images.
Mais oui, il y a plein d'images qui attrapent l'œil.
Extraordinaire. Peut-être, voilà, ça c'est une image assez fascinante. Alors,
ah oui, très différente de ce qu'on vient de voir.
Effectivement, alors là en fait, Luigi photographie ces grands sujets, je dirais, dans les années de 1935 à 1945. C'est vraiment les crimes, les feux, les accidents de voiture. C'est ces grands sujets, mais on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, il va de plus en plus se focaliser sur les regardeurs et sur les spectateurs. Ici, on a un crime. On montre à côté de la photographie la page du journal dans lequel cette image a été publiée. Et on voit que Luigi a photographié non seulement le cadavre qui gît sur le trottoir de New York, mais qu'il a aussi photographié ceux qui sont en train de regarder ce crime. Et là, ce qu'on voit, et c'est ce qui intéresse Luigi, c'est toute la palette d'émotions face au crime, face au meurtre, face au cadavre. On a une femme qui pleure, on a un jeune homme interloqué, on en a un autre dont on sent qu'il est énervé, qu'il pousse les gens devant, on a un autre qui est en train de rire. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le PM Daily, qui publie cette image en 1941, va montrer en petit l'image du crime, et presque en grand, ça occupe plus de place, presque la moitié de la page, montre cette palette d'émotions, parce que c'est effectivement ça qui intéressait le photographe.
On parlait de théâtre dans la salle précédente. Là, il y a quelque chose de très cinématographique. Hein. On reste dans ce rapport artistique à l'image.
Tout à fait. Uji était d'ailleurs autant intéressé par les spectateurs des théâtres que par ceux des cinémas. Il les a d'ailleurs beaucoup photographiés. On a juste à côté une série de photographies qui sont faites dans un cinéma, des enfants qui sont en train de regarder un film. Et Uji les a photographiés en infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'était pas vu par ses enfants quand il les photographiait, parce que précisément, il voulait capter leur émotion devant le film. Il dit dans une interview qu'il y avait beaucoup plus d'émotion sur le visage des enfants qui regardaient le film que chez les acteurs du film lui-même. Et c'est ça qui l'intéressait.
Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et pour cette visite, on peut voir l'exposition jusqu'à quand ?
L'exposition est visible jusqu'au 19 mai, donc encore quelques mois pour visiter l'exposition.
Merci beaucoup.
Merci Marie Sorbier, on vous retrouve demain à Caen pour la visite d'une artothèque, un lieu où l'on emprunte les œuvres d'art. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.